Shavua Tov.
Shavua Tov, Eliane invite pour la Tov.
Et voilà.
Donc je rappelle, je vous demande chacun de vous mettre en mute et le reste vous en laissera quelques minutes à la fin pour les questions. Shavua Tov à tous, ça fait très plaisir de se retrouver après cette longue interruption de la semaine. Et je crois qu'ils ont le savoir.
Tov. Bon, bien les amis, Boker Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov, on peut dire tout ça, on peut dire tous les Tov. Et en espérant que cette semaine sera une bonne semaine. Je n'ai pas encore eu le temps d'envoyer les deux petites études du matin. Donc après le cours, j'enverrai Bezrat Hashem. Alors, on revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah après cet arrêt d'une semaine insoutenable. Et également, la semaine d'avant, on avait parlé de Hanouka, des Giboré Israël. Donc maintenant, on revient dans notre série sur l'histoire de la Kabbalah. Et nous partons, nous sommes toujours dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et bon, c'est une période qui est quand même très, très riche en termes de Torah ta Kabbalah. Et après avoir évoqué Rabbi Eliyahu ben Amozeg, après avoir évoqué le Rav Shmuel Mohaliver, eh bien aujourd'hui, nous partons. Nous partons en Europe de l'Est. Nous partons en Europe de l'Est dans les terres de la Chassidoute. Eh oui, parce que nous sommes à une époque, quand on parle de Chassidoute à ce moment-là, nous sommes à une époque où va éclore un géant de la Chassidoute, celui qu'on appelle dans le langage de la Chassidoute à Kohen Agadol, celui qui, à tort, est considéré comme étant un des élèves directs du Baal Shem Tov et du Maguide de Meseritch, alors qu'en fait, il vit 150 ans après. Mais c'est pour montrer à quel point il va avoir une influence. Et c'est un homme qui est extrêmement particulier, justement parce qu'il ne commence pas en tant que chassid. Il ne commencera pas sa carrière en tant que Rav Chassidi. Au contraire, il commencera comme étant un mitnaged, et j'ai envie de vous dire que ce qui va l'amener à la chassidoute, eh bien, va être quelque chose qui, lorsqu'il sera chassid, il sera complètement contre cela. Alors, venez, on essaie de comprendre de quoi on parle. On parle d'un homme qui va énormément écrire. Et la semaine dernière, enfin il y a deux semaines, quand on a parlé du Rav Shmuel Mohaliver, eh bien on a vu que le Rav Mohaliver, lui, n'avait pas écrit. Eh bien, le Rav dont on va parler aujourd'hui, lui, il a énormément écrit. Il a laissé une trace incroyable. Il s'appelle Rabbi Tzadok HaKohen Rabinovitch, ou alors Reb Tzadok HaKohen Milublin, ou alors simplement Reb Tzadok. Alors, de qui on est en train de parler? Rabbi Tzadok HaKohen naît dans une petite ville qui s'appelle Kreuzenburg, et il est le fils du rabbin de la communauté, le Rav Yaakov HaKohen, et comprenez-moi bien, le Rav Yaakov HaKohen Rabinovitch est mitnaged. Mitnaged. C'est-à-dire quoi, mitnaged? Rappelez-vous bien, on est donc dans la guéguerre, si je puis dire, entre les mitnagdim et les chassidim. Ça fait 100 ans que ça dure, et non, ça ne s'est pas véritablement réglé. Alors oui, c'est plus une guerre ouverte comme on avait dans la première génération et la deuxième génération à l'époque du Gaon de Vilna et de son élève. Mais aujourd'hui, c'est une guerre froide, c'est-à-dire que quand on est au début du 19e siècle, il n'y a pas vraiment de contact entre les rabbanim chassidim et les rabbanim litaïm mitnagdim. Or, on s'insulte plus et on se dénonce plus au tsar, mais on n'est pas non plus très copains. Et autant te dire que les rabbins mitnagdim ne voient pas chez les chassidim des grands de la Torah, et les rabbins chassidim ne voient pas chez les mitnagdim des gens qui peuvent être grands dans la Torah puisqu'ils se coupent de la Torah Tachassidut. Quand je dis mitnagdim, ça ne veut pas dire, et là je précise, ça ne veut pas dire anti-Kabbalah. Et non, car le maître des mitnagdim, le Gaon de Vilna, était le plus grand des Mekoubalim, on a étudié sur le Gaon de Vilna. Donc il y a une différence entre l'étude de la Kabbalah et l'étude de la Chassidut. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être le moment de mettre l'accent sur cette différence. On en a déjà parlé quand on a évoqué le Baal Shem Tov, mais il faut que ce soit bien clair. Et le Reb Tzadok qu'on va étudier aujourd'hui, eh bien, quelque part, est véritablement là-dedans. Alors, de quoi on parle? Il y a deux grandes différences entre les Litaïm et les Chassidim, mais je ne parle pas d'aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, les Litaïm n'étudient que la Gemara, je schématise évidemment, mais c'est-à-dire que dans le monde Litaï, non seulement on n'est pas dans la Chassidut, mais on n'est pas non plus dans la Kabbalah. Alors que, à l'époque de Reb Tzadok, chez les Litaïm, on étudie la Kabbalah, alors que chez les Chassidim, la Kabbalah devient de la Chassidut. Ça, c'est la première différence. Et on va expliquer la différence entre les deux dans 2 secondes. La deuxième différence, c'est que chez les Litaïm, on est au sec arbe meod be pilpoul. On va beaucoup faire du pilpoul. Alors, comment est-ce qu'on va traduire le pilpoul? C'est pas clair. Parce que le pilpoul, est-ce que c'est de l'étude approfondie, comparative, ou alors est-ce que c'est comme dira lui-même Reb Tzadok à la fin de sa vie, que le pilpoul en arabe, ça se dit bilboul, parce que le pei et le bet se confondent en arabe. Il dit, est-ce que le pilpoul ne serait pas du bilboul? Donc, chez les chassidim, il n'y a pas de pilpoul. Très peu. Ok, mais je reviens à ma première différence. Kabbalah, Chassidut. Alors, la Chassidut puise son enseignement dans la Kabbalah. Il n'y a qu'à prendre un livre de Chassidut, comme le Tanya, et vous allez voir que toutes les phrases et demie, le Admor HaZaken, il utilise des citations du Harizal, des citations de Etzraïm, des citations de Rabbi Chaim Vital. Mais Kitzur, on parle de Kabbalah tout le temps. Oui, mais la différence, c'est que dans la Chassidut, on a pris la Kabbalah et on l'a, je ne vais pas dire enfermée, mais on l'a amenée au niveau de l'individu et ça va parler à la Neshama et au Nefesh de moi. Alors que la Kabbalah ne s'intéresse pas à l'individu, mais ne s'intéresse que au Klal. Et ça, c'est une très grande différence. Très, très grande différence. Aujourd'hui, on comprend qu'on a besoin des deux. On comprend qu'on ne peut pas faire que de la Kabbalah et ne délaisser complètement l'individu. Et d'un autre côté, on comprend aussi qu'on ne peut pas utiliser uniquement l'individu et délaisser complètement le clan. Je vous donne un exemple pour qu'on puisse bien comprendre ce dont je parle. Hier, Shabbat, dans le cours que je donne le Shabbat dans ma synagogue entre Mincha et Arvit à Seouda Shlichit, on étudie ce livre-là, le livre Orot du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk. Alors, vous inquiétez pas, on n'a pas encore parlé du Rav Kouk, ça viendra plus vite que vous ne croyez. En tout cas, dans le livre Orot, on était arrivé hier au dernier paragraphe de la partie qui s'appelle Zironim. Et là-bas, il y a une phrase. Je pensais qu'on allait avancer, mais en fait, on est resté une heure sur une phrase. Pourquoi? Parce que je vais vous lire la phrase. Et j'ai expliqué la phrase pour qu'elle soit compréhensible en rajoutant un mot. J'ai dit que c'est un mot qui n'est pas marqué dans le texte, mais si on veut comprendre la phrase, on n'a pas le choix. Alors, je vous lis la phrase. Et vous allez voir que c'est exactement la marloquette qu'on a aujourd'hui. advekut ba'ashem, le fait d'être collé à Dieu, yatshuka ayoter tivit la adam. C'est la volonté, la recherche la plus naturelle de l'homme. Voilà la phrase. Et j'ai simplement rajouté le mot Advekut ba'ashem, yatshuka ayoter tivit, benishmat ha'adam. J'ai rajouté le mot baneshama, chez l'Adam. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, j'ai entendu dire d'un ami qui m'a raconté, évidemment pas de moi, mais que ça lui est déjà arrivé quand il s'est réveillé le matin, eh bien, qu'il n'a pas bondi de son lit pour aller faire la tefila, mais qu'il s'est retourné de l'autre côté et qu'il a fermé l'œil gauche. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui font ça. Que lorsqu'il se réveille en plein hiver et qu'il fait froid, eh ben, il ne saute pas du lit directement, mais il préfère remettre la couverture un petit peu sur la tête. J'ai entendu dire. Bon, mais ça, c'est pas ta neshama. Ta neshama, elle a envie de sauter et de faire des mitzvot. D'accord. Il y a une différence entre le nefesh et la neshama. Entre ce que l'Admorazakel appelle un nefesh abéhémit, la nefesh aéloïde. Tout ça, c'est clair. Seulement, il y a une grande marloquette, parce que dans le cours que je donne le Shabbat après-midi, c'est des gens qui ont étudié dans plein d'yeshivot, y compris à Merkaz Arav et tout ça. Ils nous disent, mais non, le Rav Kook, il n'a pas dit ça, il n'a pas dit Neshama, donc ça veut dire que Zeken Yoter Tiviba Adam. Deux secondes. Quand tu parles du Adam de manière collective, l'humanité, alors je peux entendre qu'effectivement, la Tchouka, la volonté la plus profonde de l'humanité, de manière collective, c'est la Dvekut Ba'Hashem. Mais au niveau de l'individu, de chacun des membres de cette humanité, bah, dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. Donc où est-ce qu'elle est cette Dvekut Ba'Hashem? Dans l'individu, elle est dans la Neshama. Après, est-ce que tu arrives à l'exprimer aussi dans ton quotidien? À l'éveil, Bezrat Hashem. Ok, donc c'est la grande différence qu'on a entre le klal et le rat. Donc voilà les grandes différences qu'il y a entre la chassidut et la litayut. Alors je reviens à mon bonhomme. Donc Rabbi Tzadok Hakohen Rabinovitch, eh bien, il est donc d'une famille de litaïm. De par sa mère, eh bien, ils seront des descendants directs du Shla Akadosh, de Rabbi Ishayahu Alevi Horowitz. Bon, on parle ici donc d'une famille très importante, mais comme je l'ai dit, Zéou, ce sont des Litaïm, ce ne sont pas du tout des Chassidim. Alors que faire maintenant? Eh bien, il va commencer à avancer, et là, on va commencer tout de suite à raconter des histoires. Oui, les amis. Ce matin, on raconte des histoires. Mais attention, vous vous rappelez de ce qu'on dit sur les histoires chassidiques. Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, un des ancêtres de Reb Tzadok. Donc, si je comprends bien, l'autre différence est aussi sur l'approche de la dvekout entre chassid et mekoubal. Bien sûr, bien sûr. Mais ça, on en reparlera. Bekitsour, vous savez ce qu'on dit sur les histoires chassidiques, nous dit Reb Nachem Mendel de Kotzk, que les histoires chassidiques, celui qui y croit, il est bête. Mais celui qui n'y croit pas, il est un apostat, un picoirus. Donc choisissez dans quel camp vous êtes. On va raconter plein de choses. Mais rappelons-nous d'une chose. J'ai entendu ça d'un de mes maîtres qui disait ça sur les histoires chassidiques. Il dit, je ne sais pas s'il faut les croire ou s'il ne faut pas les croire, mais une chose est sûre. Sur moi, on ne raconte pas ces histoires-là. Donc, même si ce n'est pas exactement vrai, le fait que sur ce personnage-là, on raconte des histoires comme ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on raconte que Reb Tzadok, à l'âge de 1 an, il parlait déjà. Mais pas il parlait. Et que donc, dès qu'il a commencé à parler, eh bien, il était makpid de faire la broche de Shakol Nia Bizvaro avant de têter le Saint Samer. Ah oui, c'est comme ça. On raconte sur lui que à 3 ans, il commençait déjà à étudier Tosfot dans la Gemouré. On raconte sur lui que à 8 ans, il a passé l'examen chez Rabbi Elchanan Spector. Mais ça, en l'occurrence, on ne raconte pas, c'est marqué. C'est marqué que chez Rebel, dans les toldot de Rebbe Elchanan Spector, qui était, comment dire, le patron de l'étude de la Torah en Europe de l'Est à cette époque-là, eh bien, le petit Tzadok est passé devant lui pour se faire tester le test de la Gemara. Genre, quand quelqu'un dit « je connais toute la Gemara », eh bien, on le teste. Eh bien, il est passé devant Rebbe Elchanan Spector à 8 ans et il a passé le test. Genre, il connaissait tout le chasse BLP à 8 ans. Ok, yalla la briout. Donc, on parle de quelqu'un qui, évidemment, est reconnu comme étant un ilouï, pas de problème. À l'âge de 15 ans, on le marie. On le marie avec la fille d'un riche producteur de vin, et tout va bien. Tout va bien. On est bien, on est pépère, on étudie la Torah, on est content. Attention, il est toujours l'Italie, hein. Et c'est là que les gens commencent à... Ça énerve un peu les gens. Que Rabbi Tzadok, tellement jeune, tellement grand, mais il refuse de répondre à des questions. Il dit, je ne suis pas apte à répondre, laissez-moi tranquille. Et ça commence à énerver les gens. Si bien qu'on essaye de le faire sortir de ses gonds. C'est quoi, on essaye de le faire sortir de ses gonds? Eh bien, on essaye, après la mort de son beau-père, lorsque c'est sa femme qui reprend l'affaire familiale, puisque lui, Reb Tzadok, il étudie, sa femme reprend l'affaire familiale et à ce moment-là, on commence à dire du lashon hara sur elle. Dire du lashon hara qu'elle est frivole, qu'elle commence un petit peu avec tous les clients qui viennent au magasin à avoir un comportement qui est l'obéseder. Mais Reb Tzadok, il n'accepte pas d'écouter le lashon hara. Ma pitom, hasveshulem. On n'écoute pas le lashon hara. Alors, ça avait déjà commencé quand le père de cette dame était encore en vie et qu'elle l'aidait au magasin. Mais Kitsour, à un moment donné, les gens décident de lui tendre une embuscade. Ils font en sorte de faire venir Reb Tzadok dans le magasin au même moment où il y aura le Moshel, le gouverneur de la région, Goy, qui vient au magasin. Et il vient au magasin, il achète du vin. Et lorsque la femme de Reb Tzadok lui donne le vin, eh bien, le gouverneur Goy lui serre la main pour la remercier et tout ça. Et tous les élèves disent à Reb Tzadok, tu vois, rien ne touche les goyim. Pas de problème, pas de retenue. Et là, Reb Tzadok voit ça et il ne sait pas quoi faire. Et il lui dit, écoute, je suis Cohen. Et je suis très, très makpid sur la Kedusha avec ma femme. Et là, c'est pas possible. Ce que je viens de voir, c'est pas possible. On doit se séparer. Eh oui, Anita, je te vois faire quoi? Mais tu as raison. Tu as raison. Un chassid, il aurait pas fait ça. Mais il est pas chassid, là. Elle lui dit, mais c'est pas de ma faute, on m'a tendu une embuscade, mais enfin pas du tout, aucun rapport, j'ai rien fait de mal, je suis tzadika. Et lui, il bouge pas. Il dit, en mal à sot, ad noten la get. Je te donne le get. Et elle dit, je refuse. Je refuse le get. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien fait. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, on va faire un truc. C'est quoi le truc? C'est un truc qu'on appelle Eter Mea Arabani. C'est quoi ce truc? c'est que tu dois avoir la permission de 100 rabbins. Et quand je te dis 100 rabbins, on ne parle pas du rabbin de quartier. 100 rabbins qui vont te donner une permission de la divorcer même contre sa volonté. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il va devoir commencer à se balader un peu partout pour trouver le éther de 100 rabbins. Alors, il commence par aller chez tous les rabbins qu'il connaît, ou les litaïm. Sauf qu'à un moment donné, pour trouver les 100, ben, il est bien obligé d'aller chez les rabbins chassidim. Et c'est là qu'il va commencer à rencontrer la chassidoute. Et à chaque fois qu'il va chez un rav chassidi, et il lui demande le éther mea rabbanim, tous les rabbanim chassidim chez qui il va, lui disent, écoute, al pi halakha, tu as peut-être raison, mais al pi ruach hakodesh, tu as tort. Elle est beseder gamour, ta femme. Et lui, il ne bouge pas. Non, tu me donnes. Dans l'un de ses voyages, il va arriver dans la ville de Ishbitzer. Et là, il va rencontrer un homme qui va changer sa vie, qui va s'appeler Rabbi Mordechai Yosef Leiner. Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Baal Me Ashiloach. Baal Me Ashiloach. La première fois qu'il va rencontrer un rav chassidique, j'ai oublié de le dire, c'était Rabbi Aaron Mitchernobyl. Rabbi Aaron Mitchernobyl, c'est lui qui va commencer à lui expliquer qu'est-ce que c'est que la chassidoute. Mais kitsour, finalement, quand il rencontre Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Admour Mishbitzer, c'est terminé. C'est terminé, toute sa vie va changer. Mais attention, entre-temps, il a eu les 100 signatures. Il revient, il divorce sa femme et il commence à aller se balader de plus en plus. Il part à Lublin. Il part à Lublin, il va étudier là-bas et c'est là-bas qu'il va faire des allers-retours incessants vers Ishbitzer. Dans l'un de ses voyages, eh bien, il devient de plus en plus connu et il commence de plus en plus à rentrer dans le Torah d'Hassidut et il se remarie. Et comme je l'ai dit au tout début, dès son remariage, et particulièrement pendant toute sa vie de Admour Hassidi, on n'y est pas encore, mais Reb Tzadok refusera de faire des moïftim. Il refusera de faire des miracles. Et il refusera de garantir des choses. Ça veut dire quoi, garantir des choses? Vous savez, chez les rabbanim chassidim, il y a beaucoup de... j'ai été voir le Rebbe pour me demander, il m'a dit, tu verras, dans un an, tu as un fils. Ça, il ne fait pas. Il ne fait jamais. Il dit, je suis prêt à prier pour toi, mais je ne peux pas te garantir que Dieu il va écouter ma prière. Sauf pour un domaine. Il y a un domaine où il sera prêt à tout le temps dire « je te promets, je te promets ». C'est quoi ? Shlom Bayit. Il devient finalement un des plus grands combattants pour le Shlom Bayit après avoir compris son erreur. Finalement, quand il donne le guet à sa femme lui dit « mais je j'ai rien fait de mal ». Et il écrira dans un de ses livres qu'il demande pardon à sa femme, sa première femme, parce qu'il sait finalement qu'elle n'a rien fait de mal. Maintenant qu'il joue avec le roi Hakodesh aussi, alors il sait qu'il s'est trompé. Bekitsour, notre Reb Tzadok, dans sa carrière de litaï, eh bien, il va être palpelan gadol, umit palpel im kulam. Il s'en fiche complètement de ce que les autres ont écrit avant lui. S'il n'est pas d'accord, eh ben il n'est pas d'accord. Moi, à la ligne. Terminé, il n'y a pas de discussion. Et résultat des courses, eh bien, il va tout d'abord écrire un livre. Son premier livre, qui est assez incroyable, il s'appelle Otsar Amelech. Otsar Amelech. Il a à peine 17 ans. Et c'est quoi ce livre, Otsar Amelech? Eh bien, c'est un livre dans lequel il va prendre tout le Mishneh Torah du Rambam. Et vous savez qu'il y a un homme qui a écrit sur le Mishneh Torah qui n'est jamais d'accord avec le Rambam, il s'appelle Rabbi Avraham ben David, Ara'avad. Eh bien, il va prendre toutes les contradictions entre le Rambam et le Ra'avad et expliquer pourquoi c'est le Rambam qui a raison. Bon, voilà, ça, c'est pour se mettre en bouche. Et en fait, il va commencer à écrire énormément. D'abord, des livres de Halakha, des livres de Pilpoul. Mais tout ça n'est rien comparé aux livres qu'il va écrire lorsqu'il devient Chassid. Alors, d'abord, essayons de comprendre de quoi on parle. Lorsqu'il va se connecter au Rogatchover et ensuite au Rabbi de Hishbitzer, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, qui a écrit le livre Mea Shiloah, il va étudier chez lui pendant 7 ans. Et pendant ces 7 ans, il ne sortira pas un mot de sa bouche. Il ne dira aucun Dvar Torah. Il apprend. Il devient une éponge et il apprend, 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 apprend. Lorsque Baal Mea Shiloah vient à mourir, tout le monde se tourne vers lui et il dit « Shum Davar, c'est pas moi qui vais continuer après le Baal Mea Shiloah. » Et là, c'est Rabbi Yehuda Leib Eger. Rabbi Yehuda Leib Eger, qui est le successeur du Mea Shiloah, et il attendra la mort de Rabbi Yehuda Leib Eger pour finalement prendre la Admo. Et il deviendra Admo pendant 32 ans. Seulement, imaginez-vous, tout le monde sait qui c'est. Tout le monde sait qui c'est Reb Tzadok. Il devient Admour de la Chassidoute de Hishbitzer, Chassidoute, mais qui n'est plus à Hishbitzer, qui est à Lublin maintenant. Et tout le monde attend que le premier Shabbat, vous savez, c'est une tradition chez les Chassidim, le premier Shabbat où le Rebbe devient le Rebbe, il va faire un tiche de folie. Et donc arrive le tiche et il ne dit pas un mot. Et comme ça, pendant un an, il attendra le premier Yortzeit, la première Iloula de Rabbi Yehuda Leib Eger, et c'est là qu'il va commencer à parler. Toujours dans cette optique de Kavod, les Talmidei Chachamim qui l'ont précédé, de ses maîtres, il n'est pas prêt à rentrer dans leurs chaussures trop vite. Et lorsque ça y est, il commence, et bien alors il commence et il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus, et là on est obligé de parler de sa bibliothèque personnelle, c'est-à-dire de ce qu'il va écrire, de tous les livres qu'il va écrire, parce que c'est absolument incroyable. Alors, pour ne citer que les plus... Alors d'abord, on peut les trouver pratiquement tous aujourd'hui, ça c'est assez incroyable, parce qu'il va ordonner avant la fin de sa vie à son fils et à son gendre d'imprimer tous ses livres. Donc il va s'en occuper avant sa mort, très souvent... les rabbinim chassidim après leur mort, alors les élèves essayent de récupérer des choses. Non, là, comme il l'a fait de son vivant, il a ordonné les livres, il leur a donné, machin, donc c'est assez pas mal. Et il écrit des livres de halakha. Alors, par exemple, il écrit de halakha comme par exemple Levushet Tzedaka, à la Sefer Baal à Levushim, à la halakha à la Shulchan Aruch. Il va écrire un livre qui s'appelle Et Arot le divrei Yemei Israël. Et là, on n'est plus dans la halakha du tout. C'est-à-dire, on est à le Sefer Shel Achida, chez Magedolim. Il va écrire un livre qui s'appelle Or Zarua la Tzadik, Sefer Moussar. Il va écrire un livre qui s'appelle Israël Kedoshim, Al Kdushat Am Israël. Mais les livres les plus importants, sont la série de livres de ses commentaires de la Torah, des Chagim, qui s'appelle Pri Tzadik. Pri Tzadik, c'est énormissime. Le Rav Kook dira plus tard qu'il va être énormément influencé par la Torah du Pri Tzadik. Il y a un autre livre très important qui s'appelle Tzidkat Hatzadik. Tzidkat Hatzadik, c'est l'un des livres les plus importants de Reb Tzadok HaKohen Meloublin, dans lequel il va parler de sa relation avec la Torah. Avec la Torah, avec les Talmidei Chachamim. Donc ce sont des livres qui sont extrêmement importants et c'est là qu'il va donner toute sa Mishnah, toute son, sa vision de la Torah chez Béalpé. Reb Tzadok HaKohen Meloublin, pour lui, la Torah chez Béalpé, et ça, c'est un vrai chidouche. C'est un vrai chidouche énorme. Hein. Deux secondes, temps mort. Il y a des rabbins qui sont des gdolé ador. Il y a des rabbins comme ça qui sont gdolé ador. Que dans leur génération, c'est eux les patrons. Mais ils ne sont pas forcément gdolé adorot. C'est-à-dire que, bien qu'ils soient des grands tzadikim et qu'ils aient été très influents de leur époque, ils ne vont pas forcément avoir une influence 500 ans plus tard. Soit parce qu'ils n'ont pas eu d'action qui vont avoir une influence des années et des années et des années plus tard, soit qu'ils n'ont pas écrit des sfarim qui vont rester des années et des années plus tard. On a fait le ménage dans ma synagogue cette semaine, la semaine dernière, quoi, et parce qu'il y avait une bibliothèque qui était sur le point de s'effondrer. Donc, on a sorti tous les livres, on les a rerangés dans une autre bibliothèque. Et on a regardé, c'est des livres, bon, on ne va pas les jeter, tu vois, mais c'est des livres qui n'ont jamais été ouverts depuis qu'ils ont été imprimés, j'imagine. C'est des livres de gens que personne ne connaît. Que personne ne connaît. Alors que quand tu regardes dans la page de couverture, il y a Marté, Kvod, Agaon, Arav, Agadol, machin. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, imaginez-vous, dans toutes les villes, le petit village, le petit machin, que ce soit en Pologne, en Russie, en Europe centrale, en Afrique du Nord, il y avait des rabbins partout. Ils ont tous écrit des livres, presque. Alors, est-ce que ces livres étaient importants dans leur communauté? Certainement. Mais est-ce qu'ils vont avoir un retentissement dans l'histoire et dans tout le monde juif? Pas forcément. Combien de rabbins vous connaissez de l'époque du Rambam? Allez, 15. Des Rishonim de l'époque du Rambam, on en connaît quoi? 15? 20? D'accord, mais il y avait quand même vachement plus de rabbins dans le monde à cette époque-là. D'accord. Mais qu'en irait que l'Ashgacha, que Hakadosh Baruch Hu, n'a pas voulu que leur Torah elle continue dans les générations, mais elle a voulu que d'autres Torah continuent dans les générations. Eh bien, Reb Tzadok et Vadaï Echad Migdolé à Dorot. Ça, non seulement sa façon de l'Ifsok, mais sa façon de voir la Torah est Chatshanit Meod, Meod, Meod. Pourquoi elle est Chatshanit Meod, Meod, Meod? Parce qu'il va être un des premiers qui va très clair, parce qu'il vient des deux mondes, parce qu'il était Litaï et qu'il est devenu Chassid. Eh bien, il va rentrer du pile-poule dans Torah Tachassidut. C'est-à-dire qu'il va faire de la Chassidut des textes, enfin, il va étudier la Chassidut comme on étudierait la Gemara. C'est ce qui va amener les Chassidim à aller étudier beaucoup plus le Niglé. Parce que Reb Tzadok, il est présent chez tous les chassidim. Il va faire le pont entre les deux mondes. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais la question qu'on se pose, parce que bon, quand même, quelle est sa relation avec Eretz Israël? Est-ce que Reb Tzadok est un sioniste convaincu? Les amis, quand on lit Tzidkat HaTzadik et même Pri Tzadik, Al Sefer Dvarim, tout l'amour de la terre d'Israël est présent là-bas. On entend, et dans ces lignes, toute sa tchouka, son amour et sa volonté de venir en Eretz Israël, à tel point qu'il décidera que tout l'argent. Ah oui, parce que l'argent, oula, c'est ça, j'ai pas parlé de l'argent. Ah bah oui, tiens, Reb Tzadok prend pas d'argent. D'accord? Reb Tzadok HaKohen Miloublin, il refuse tout argent. Alors attention, tant qu'il est marié dans son premier mariage et qu'il y a son beau-père avec le marché, le magasin de vin, ça marche. Deuxième mariage, il se marie avec la petite fille du Yehudi Akadosh Mipsishra. Et elle ouvre un magasin. Elle ouvre un magasin de vêtements. Et elle est mefarneset oto veota. D'accord. Mais quand elle meurt, il n'y a plus d'argent. Il a accepté que l'un de ses élèves reprenne le magasin et qu'il lui donne de quoi survenir à ses besoins. Il refuse de prendre de l'argent parce que pour lui, s'il doit l'ifsok alakha et qu'il doit de l'argent à des gens ou qu'il doit faire du business avec des gens, il sera influencé dans sa psychat alakha. Donc, je ne veux pas prendre d'argent. Sauf un truc. Il y a un truc où il est très content, il dit « Enfin du kasef kasef !» C'est quoi ce truc où il ne rechigne pas? Eh bien, c'est lorsqu'ils font des pidyon aben. Le pidyon aben. Pidyon aben. Lorsqu'on a un bébé garçon, eh bien, on doit faire le rachat du premier-né. Et ce rachat, il faut l'acheter à qui, le bébé? Il faut l'acheter au Cohen. Donc, à Lublin, tout le monde vient faire son pidyon aben chez Reb Tzadok. Reb Tzadok, il dit, ça, c'est de l'argent que la Torah m'a donné. Donc, comme c'est de l'argent que la Torah m'a donné, ça va pas. Bon, le problème, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas devenir très, très riche avec uniquement l'argent de pidyon aben. Qu'à cela ne tienne, notre ami maître Reb Tzadok, il n'a pas besoin de beaucoup, puisque j'ai oublié de vous dire. Mais Reb Tzadok HaKohen Miloublin ne mange pas. Non, je plaisante. C'est pas qu'il mange pas. Il mange que quand il y a des Seudot Mitzvah. C'est pour ça qu'il finit une Maseret du Talmud tous les jours. Ben oui. Sinon, il ne peut pas manger. Donc, tous les jours, il finit un traité du Talmud. Comme ça, le soir, à la nuit tombée, il fait un Siyoum. Et il mange. Bon, vous comprenez qu'on parle d'un personnage qui n'est pas tout à fait normatif. C'est pas vraiment le mainstream des gens, bien évidemment. Et donc, l'argent qu'il a réussi à engranger, eh bien, il le dédie à un objectif. La Nessia pour Eretz Israël. Après 32 ans de Admorout, non, d'abord 30 ans, après 30 ans de Admorout, ça y est, il a l'argent et il veut partir en Eretz Israël. Il a un frère qui habite déjà en Eretz Israël, il communique énormément et ça y est, c'est parti, je pars. Enfin, je pars, sauf que non, parce que les Chassidim ne sont pas d'accord qu'il parte. Bon, d'accord, les chassidim ne sont pas d'accord, c'est pas eux qui décident. Hein. Ils vont faire quelque chose de terrible. Pendant une année, la dernière année des préparatifs de Reb Tzadok, les chassidim vont intercepter le courrier et vont l'empêcher de recevoir les lettres de son frère. Pendant un an, alors qu'ils s'écrivaient à mesure d'une fois par mois, pendant un an, il n'a plus de nouvelles de son frère. Les lettres sont arrivées, mais elles ne sont pas arrivées jusqu'à lui. Et il pense que son frère est mort. Et il y voit un siman mishamayim. Ah, c'est pas un peu cruel, c'est cruel beaucoup. C'est pas un peu cruel, c'est cruel beaucoup. Et il voit dans cela le signe que si son frère est mort en Eretz Israël, eh bien, il ne doit pas partir lui. C'est que Kadosh Baruch Hu lui envoie un signe Mishamayim qui ne doit pas partir. Et il ne partira pas. Il ne partira pas. Seulement, l'argent qu'il avait prévu pour Eretz Israël, Il dit Ma'alim Bakodesh Velo Moridim. Je ne peux pas utiliser cet argent pour autre chose. Rien n'est aussi grand que de partir en Eretz Israël. Donc il fait quoi avec cet argent? Eh bien, il va faire un chidouche. Un chidouche qui va être complètement dévoyé si on ne connaît pas le contexte. Et le contexte, c'est quoi? C'est qu'il voulait partir en Eretz Israël, qu'il y a eu tout le tralouïde et que finalement, il n'est pas parti. Mais c'est quoi le chidouche? C'est que construire un Bet Amidrash Bechutz Laaretz, Zeprinat Nesia l'Eretz Israël. Construire un Bet Amidrash où on étudie la Torah en dehors d'Israël, c'est comme si on allait en Eretz Israël. Et de là, les gens vont dire, Reb Tzadok, il n'était pas de ça, il était passionniste, parce qu'il dit que construire un Bet Amidrash, c'est comme si on était en Israël. Donc tu vois bien, on peut rester à Paris et faire un Bet Amidrash. Ça, c'est grave. C'est sortir complètement l'enseignement du contexte et le dévoyer complètement. Il voulait partir en Israël. C'est parce que finalement, il ne peut pas partir ou il pense qu'il ne peut pas partir qu'il va dire, bon, cet argent, on ne va pas le jeter à la poubelle. Donc, je fais Keilu. Et donc, plutôt que, voilà, si déjà je dois rester en Israël, en dehors d'Israël, eh bien, cet argent va être utilisé pour continuer à enseigner la Torah. La preuve que cette Torah de Reb Tzadok conduit à Eretz Israël, eh bien, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, l'une des mekorot fondamentales du Rav Avraham Yitzhak à Cohen Cook pour venir en Eretz Israël, ça va être la Torah de Reb Tzadok à Cohen Miloublin. Donc, tu vois bien que si le Rav Cook y puise chez Reb Tzadok, c'est que ce n'était pas le plus grand antisioniste de l'univers. Donc, les amis, ça, c'est Reb Tzadok à Cohen Miloublin. Aujourd'hui, cette Torah de Reb Tzadok, eh bien, elle est, comme on a dit, elle fait le pont entre les mondes. Et je pense que ça, c'est peut-être l'une des choses les plus essentielles. Le fait d'être capable de faire le lien entre tous les domaines de la Torah, eh bien ça, c'est pas rien du tout. Et simplement pour vous montrer un petit exemple de la Torah de Reb Tzadok, pour vous donner un petit exemple de la Torah de Reb Tzadok à Cohen Miloublin, il écrit sur tout, hein, Reb Tzadok, ça n'y a pas de problème, on va retrouver ses enseignements partout, mais je voudrais vous donner un petit enseignement par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Je veux dire, si déjà on est là, Reb Tzadok HaKohen, dans Prit Tzadik, sur les Moadim et sur les Rashi Chodashim, eh bien, il va parler de chaque Chodesh Vechodesh, sur chaque mois. Et là, on ouvre le mois de Tevet. D'accord ? On ouvre le mois de Tevet. Nous dit Reb Tzadok qu'il y a une Alakha pilpulit à propos de Yom Asara Betevet. Ma Alakha pilpulit ba Asara Betevet, eh bien, c'est que si ça tombe Shabbat, le dit Tevet, on jeûne Shabbat. Ça, c'est la Alakha, c'est pas de Reb Tzadok. Si le dit Tevet, il tombe Shabbat, on jeûne Shabbat. Vous allez me dire, mais ça tombe pas Shabbat. Et je vous réponds, oui, ça ne tombe pas Shabbat parce qu'on a fait en sorte que ça ne tombe pas Shabbat. Donc cette année, c'est vendredi, par exemple. Mais pourquoi est-ce que ça ne tombe pas Shabbat? Pourquoi on a fait en sorte que ça ne tombe pas Shabbat? Ben justement, parce qu'on ne veut pas jeûner pendant Shabbat. Mais alors, pourquoi est-ce que on devrait jeûner pendant Shabbat? Parce qu'il y a marqué dans le livre de Jérémie qui nous parle du Matsor à l'Yerushalayim qui a commencé par Sarah Betevet. Sur le siège de Jérusalem, on nous dit Be'etzem Ayom Azé. Or, vu que pour Yom Kippour, il y a marqué aussi Be'etzem Ayom Azé, alors on te dit si Yom Kippour, on fait un jeûne pendant Shabbat, et qu'il y a marqué Etzem Ayom Azé, alors pour le Asara Betevet, il y a marqué aussi Etzem Ayom Azé, et donc ça veut dire qu'il faut aussi jeûner Shabbat. Dit Reb Tzadok, dans chaque mois, la fête, ou on va dire le jour de commémoration du mois, c'est l'essence du mois. Donc, dans le mois de Tevet, dans le mois de Kislev, c'était Hanouka, mais dans le mois de Tevet, eh bien, l'essence de la fête, l'essence du mois sera Zahasara Betevet. Zahasara Betevet, nous dit Reb Tzadok à Kohen Miloublin, Ze Yom Sheou Trilat Apuranut, Aval Lo Ichur Apuranut. C'est le jour du début des problèmes, mais pas du trop tard des problèmes. Ça, c'est un enseignement fondamental. C'est quoi le trop tard des problèmes? Le trop tard des problèmes, c'est Tisha B'Av. Tisha B'Av, tu te réveilles le matin, le Beth Amikdash, il est en flamme. C'est un peu tard pour pleurer. C'est un peu tard pour se dire qu'il faudrait faire quelque chose avec les Romains ou les Babyloniens. Mais nous dit Reb Tzadok, le dit Tevet, ce n'est que le début du siège. Ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas fini encore. Tu peux encore renverser la vapeur. Nous dit Reb Tzadok, le dit Tevet, c'est le jour où on a traduit la Torah en grec, la Septante. Mais d'accord, mais ce n'est pas encore la fin de l'assimilation grecque. Ce n'est que le début où les Grecs essayent de nous assimiler. Ce n'est pas encore trop tard. Tu peux réussir à ne pas te faire assimiler et à retourner le truc. Donc, nous dit Reb Tzadok, le mois de Tevet, c'est le jour, c'est le mois, c'est ça, du début de l'introspection avant la Géoula. C'est le mois de la réflexion pour pouvoir se guéouler. Puisque le mois qui viendra après sera le mois de Shvat. Et Shvat, Toubi Shvat, c'est le début de la Géoula. Donc le mois de Tevet, c'est le mois où tu dois te poser les bonnes questions. Je terminerai simplement avec cette petite touche que nous sommes aujourd'hui dans cette guerre incroyable. Eh bien, c'est peut-être le mois justement où on doit se poser les bonnes questions de pourquoi on s'est battu dans cette guerre. Pourquoi on se bat? Est-ce que c'est simplement pour nous venger de Simchat Torah, de Shmini Atzeret du 7 octobre, ou alors est-ce que c'est pour véritablement retrouver notre identité, retrouver notre terre, cesser de ne faire qu'écouter ce que disent Umot HaOlam et commencer à nous avoir un message à leur apporter? Le mois de Tevet, nous dit Reb Tzadok, c'est le mois où tu commences à te poser les bonnes questions. Et c'est sur cette phrase-là que je vous dis, c'est à vous maintenant d'ouvrir les micros et de poser les questions. Oh là, quelle transition extraordinaire. Voilà, vous pouvez poser les questions. Reb Tzadok meurt en 1900, mais ne croyez pas qu'on va de là arriver au XXe siècle. Car la semaine prochaine, direction Bagdad, pour parler de Haham Yosef Chaim à Ben Ishraï. Mais ça, ça sera la prochaine fois. Vous pouvez parler.
Dis-moi, ils ne s'en sont pas voulus quand même, les Hassidim, d'avoir intercepté ces lettres. C'est quand même hyper cruel ce qu'ils lui ont fait. C'est pas grave. Même Derech Hadin, c'est pas
nulle part. Je ne peux pas te répondre, je n'ai pas d'infos. Je ne sais pas. Ils sont voulus, ils ne sont pas voulus. Ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas.
Alors à nous, en plus.
Quoi?
Déjà, je ne ferai pas ça à mon voisin, même si je n'aime pas mon voisin, mais alors, attends, ils ont fait quand même.
Non, mais c'est pas bon, c'est pas bon. C'est terrible. Alors, tu me demandes est-ce qu'ils s'en sont voulus ou pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'infos.
Allô, allez-nous.
Non.
Rav Eitan.
Oui.
Quelle question vous voulez qu'on se pose de ce jour de Tevet? Slicha, je suis malade.
Shelat Chachamar, Tshuva, Shlosh Tshuva. Quelle question j'aimerais qu'on se pose? Ben, j'aimerais qu'on se pose la question, la vraie question de. Et je ne parle pas du tout de politique. Hein. Je ne parle pas du tout de politique, mais quand vous savez, on pose tout le temps la question, mais Maye Bayom Shachre. Je ne parle pas au niveau simplement politique de savoir est-ce qu'il faut aller repeupler le Gouche Katif ou pas. Ce n'est pas seulement ça. La
Mais on
question,
se fait passer.
voilà, la question que j'aimerais poser, c'est qui est le peuple juif de l'après? Au niveau de notre unité qu'on a retrouvée pendant la guerre. Mais est-ce que c'est uniquement pendant la guerre ou est-ce qu'on comprend que on ne peut plus se déchirer comme on s'est déchiré? Au niveau de notre souveraineté nationale, est-ce qu'on va simplement mettre une force militaire là-bas pour encore une fois reproduire ce qu'on a essayé de reproduire avant? Ou est-ce que on comprend que le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël est un lien intrinsèque? Est-ce que le message que nous avons à apporter, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je trouve, alors peut-être que c'est l'optimisme qui est trop présent, mais je ne sais pas si vous avez fait gaffe, ces derniers jours, et j'ai vu encore une fois la conférence de presse hier soir, pratiquement maintenant dans chaque conférence que donne le Premier ministre, le chef, enfin le ministre de la Défense et Gantz, ils disent tout le temps Be'ezrat Hashem.
Parce qu'ils sont arrivés au bout, là où il n'y a plus de
Peut-être.
Bnei Adam, Yesh
Amen. Amen.
HaKadosh Baruch Hu. Ce qu'il y a de très important, que chaque visite que j'ai faite aux parents shkoulim, ils ne parlent pas de politique, ils parlent de Ahdut HaAm. De Ahdut HaAm. La visite chez la famille à Almog, c'est des gens du kibboutz. Ils disent, Igiou le po anashim datim, kedeshani uchal lomar kadish. Et ils viennent, ils s'assoient, ils m'écoutent, ils parlent. Ils découvrent que nous sommes, tout le monde découvre que nous sommes tous frères. Et je pense que la question la plus importante, ce qu'on essaie de parler, c'est la communication. Comment nous devons communiquer les uns avec les autres? Et je pense que Yosef Haïm Hershkovitz, le directeur de l'école de Pelerbanim, il nous a donné un chemin de faire du bien, de faire du bien, de parler du bien, d'arrêter de nous déchirer. Je pense
D'accord.
que le travail que nous devons faire tous, c'est d'abord aller voir tous ces chayalim qui sont psouïm dans les hôpitaux. C'est d'aller voir toutes les familles. Et les gens me disent, mais je ne les connais pas, on n'a pas besoin de connaître. Nous sommes tous le même gouffre. Comme nous étudions la Kabbalah, et vous avez dit aujourd'hui un mot extrêmement important, une petite phrase. La Kabbalah ne parle pas de pratim, elle parle du klal. Le Knesset Israël est là, nous devons travailler sur ce lien de Knesset Israël. Comment on le fait? Qu'on est attaché avec notre neshama, avec notre cercle, à chacun de nous. Et je pense que, comme vous dites, pour trouver Sheilot ou pour trouver des tshuvot, c'est maintenant d'aller voir toutes les personnes qui ont payé le prix le plus fort.
C'est vrai.
Tu as
tout à fait raison.
C'est ce que je ressens, et je pense que mon corps est malade parce que je ressens tellement fort tout ce qui nous arrive. Et je pense que je ne suis pas seule, qu'il y a des gens qui sont ici. On est, je crois, 50, 60 personnes. Alors je demande de tout mon cœur qu'on s'élève et qu'on aille voir des malades, de prendre une journée, d'aller dans les hôpitaux. On peut rentrer sur Internet et trouver. D'aller dans les hôpitaux, s'asseoir calmement à côté des parents qui s'occupent de leurs jeunes, d'aller voir ceux qui sont en Shiva. Et là, ça ne manque pas. Aller voir les gens qui font les shloshim, arriver au Har Herzl et écouter Am Israël. Toda Rav, slicha.
Non, ben, pas slicha du tout, toda toi. Aderaba, je conjoins à cette demande-là. Ça fait énormément de bien aux familles quand ils voient des gens justement qu'ils ne connaissent pas. Donc voilà, je prends totalement. Ah, ça va être dur de poser une question derrière ça, hein?
Wow.
Pas de question?
Non.
Eh bien, les amis, alors, n'est qu'à vous souhaiter une Shavua Tov, une Chodesh Tov.
Amen.